48 FM.
Émission spéciale pour le second tour des élections législatives en partenariat avec Midi Libre Lozère.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale second tour des élections législatives en partenariat avec votre quotidien Le Midi Libre. Avec moi pour animer cette émission, Caroline Gaillard, chef d'agence de Midi Libre Lozère. Bonjour Caroline.
Bonjour Ludo, bonjour à tous.
Corentin est également présent dans le studio pour chronométrer le temps de nos invités. Alors il faut savoir que le premier tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche dernier avec 12 candidats de tous bords. Deux qualifiés pour ce second tour, le député sortant Les Républicains UDI qui a terminé en tête avec 10 600 voix, soit 30,91% des suffrages. Pierre Morel-Aluissier, bonjour.
Bonjour.
Deuxième qualifié, nouveau venu dans la vie politique, Francis Palombi pour La République En Marche qui a obtenu 7 427 voix, soit 21,66%. Francis Palombi, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons essayer pendant ce débat de parler de fond, des idées, des enjeux de cette élection pour notre département, la Lozère. Même si un député n'est pas censé représenter ou favoriser sa circonscription en particulier, mais tout le peuple français. Dans les faits, on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. On essaye toujours de récupérer des financements pour sa circonscription, pour faire avancer les dossiers structurants. Pierre Morel-Aluissier, vous êtes député depuis 2002 sur ce département. Vous briguez un quatrième mandat. Lors de ce premier tour, vous êtes arrivé en tête dans 122 communes sur 158. Vous faites un meilleur score en pourcentage au premier tour qu'en 2012. Déjà, pour comprendre votre engagement, une question simple. Pourquoi vouloir briguer une quatrième députation? On sait que le pouvoir use. Alors pourquoi vous vouloir repartir cette année encore?
Vous me trouvez usé?
On sait que le pouvoir use, je ne fais pas de...
Écoutez, moi, je suis député effectivement depuis 15 ans. Je me régale dans cette activité. J'y consacre toute ma vie. La législation fait qu'on ne sera plus que député. Il n'y aura plus de député-maire comme de sénateur-maire. Donc, ça sera qu'un seul mandat. Et je m'engage donc à un seul mandat. J'ai déposé une trentaine de propositions de loi sur les 5 dernières années. Il y en a quelques-unes qui ont pu aboutir, d'autres ne l'ont pas été. Donc je voudrais poursuivre cette activité. J'ai 12 000 dossiers ouverts à la permanence sur des problématiques citoyennes. Et donc voilà, je suis impliqué et mettre un terme à cette activité alors que je suis classé dans les 15 députés les plus actifs de France, je trouverais ça anormal. Et c'est pas ce que j'ai cru comprendre de la part des Lozériennes et Lozériens, puisque beaucoup d'organes de presse disent que j'ai fait l'objet d'un plébiscite au premier tour. Je souhaiterais que ça se poursuive au second.
Voilà, on va en parler dans cette émission. Caroline.
Alors, Monsieur Palombi, même question, mais bien sûr tournée différemment, puisque vous ne briguez pas un quatrième mandat. Vous êtes, on l'a dit, nouveau venu en politique, même si vous avez quand même un passé. On en parlera peut-être dans cette émission. Pourquoi avoir décidé de vous mettre en marche il y a à peu près un an, et pourquoi briguer ce mandat de député aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, c'est une ambition que je nourris depuis quand même pour la Lozère quelques années. Je ne suis pas nouvellement habité de cette idée. Bon, c'est vrai que je me suis toujours impliqué dans la vie associative, la vie confédérale, politique. Je suis président des commerçants de France depuis ma prise de retraite en 2014. Et je suis passionné de ce département. J'y suis venu à l'âge de 2 ans à Bellevesée. Et après, ma vie m'a toujours ramené sur la Lozère. Et j'ai une ambition forte. Je vous le dis très concrètement, je souhaite apporter du neuf, nouveau député, non investi en politique, vous venez de le dire. Je ne citerai pas mon âge, sinon mon concurrent va se moquer de mon âge, mais ça...
Alors, moi, je vais le dire, vous avez 9 ans d'écart, Pierre Morel, 59 ans, et Monsieur Palombi, 68.
Voilà, 9 ans d'écart, mais ça ne se voit pas vraiment, hein.
Quand on pense
moi,
que là...
je n'ai encore que 58 ans pour l'instant. Et moi, je ça sera la fin de l'année. Hein.
À la fin
que
de l'année.
Que 68
allez.
Ans. Bon, c'était pour se détendre un peu. Voilà, donc j'ai l'ambition de mener une politique pour la Lozère particulièrement active, avec cette chance inouïe, bien sûr, d'avoir comme président de la République Emmanuel Macron. Je ne dis pas que c'est mon modèle, je ne serai pas un député Godillot. Mais je serai très attaché à soutenir cette action du président de la République, son projet qu'il a construit avec les citoyens. Et pour moi, c'est capitale. La démocratie participative, j'en rêve depuis longtemps, en tant que citoyen moi-même. Et voilà que c'est arrivé. Et c'est pour cette raison que je pars dans cette belle aventure avec, bien sûr, la conviction d'être élu dimanche et de devenir le successeur de M. Morel.
Caroline.
Alors, Pierre Morel, vous finissez donc en tête de ce premier tour avec 9 points d'avance. Mais alors, je vais vous parler en tant que journaliste. Depuis 2 jours, on a reçu énormément de soutien pour M. Palombi. Et quasiment aucun pour vous. Est-ce que vous êtes un peu seul ? Alors vous nous avez dit en coulisses que vous aviez beaucoup de soutiens nationaux, qui ne nous sont pas encore parvenus, ça va peut-être venir. Mais localement...
Je pense qu'il faut que vous regardiez quelque chose. J'ai été investi sans difficulté par les Républicains et l'UDI. Il n'y a aucune discussion. Et j'observe que toute la classe politique de droite et du centre ont respecté ce choix. Et aujourd'hui, il y a une cinquantaine de maires de droite et du centre, ou de VD, ou non encartés, qui me soutiennent. Il y a tous les grands ténors de la droite, si on peut dire encore des ténors. Voilà, il faut faire attention. Puis, à partir du moment où vous avez une investiture d'un parti non contesté, il y a aujourd'hui, je pense que c'est la première fois, de manière assez prégnante, une unité qui s'est faite au niveau des Républicains et de l'UDI.
On voit souvent, lors des deux tours, les candidats éliminés qui appellent à soutenir un candidat ou pas. Pour reprendre la question de Caroline, on voit que Régis Turc, c'est le plus près de vous.
Je ne le souhaite pas.
De l'échiquier politique.
Je ne souhaite aucune. Je considère aujourd'hui, on veut faire de la politique autrement. C'est un concept, hein. Bon. Mais moi, je ne souhaite aucun appel, aucune prise de position. On est en suffrage universel. J'ai prouvé ce que j'essayais de faire. J'attends que les Lozériennes et les Lozériens se déterminent librement. On n'est plus du temps où le curé, l'instituteur, le maire prédéterminaient. Laissons faire les citoyens.
Francis Palombi, donc vous avez obtenu des soutiens entre ces deux tours, notamment d'Aurélie Mailleul et de la majorité du conseil départemental, y compris de sa présidente. Par contre, la gauche de la gauche, elle, osant la gauche vraiment, Serge Guessot et Christian Cosse des Insoumis, a appelé à voter blanc pour cette élection. En faisant les calculs comme ça, du report des voix, de ce qui devrait se passer au second tour, ça risque d'être très serré entre vous deux. Sur quoi vous misez pour faire la différence ?
Bien écoutez, je mise sur une première valeur, la nouveauté. Le changement, un nouveau député pour un département, après un mandat de trois mandatures, je pense que j'ai ressenti sur le terrain que les Lozériennes, les Lozériens, quel que soit leur âge, se posaient la question, se sont montrés interpellés, ce mot « ah oui, il faut que ça change, ah oui, toujours les mêmes personnes », bon, des petites réflexions de la rue. Alors, je prends acte sur ces réactions, bien sûr, et puis, il faut aussi, je m'engage à porter un programme, à porter une action qui ne sera pas forcément la même dans la méthode, sur le fond, par rapport à certains dossiers plutôt que d'autres. D'abord parce que chaque législature est différente, et je pense que M. Morel pourrait le dire mieux que moi. Hein. Il est à sa troisième révolue, donc chacune n'a peut-être pas forcément ressemblé à l'autre. Moi, je suis à l'orée d'un grand changement en France, avec un nouveau président de la République de moins de 40 ans, avec un nouveau gouvernement d'ouverture, et ça, j'y suis très attaché. Pas de clivage politique, ne me parlez pas la gauche, la droite, le centre, la gauche. C'est l'ouverture et l'action pour la nation.
Ça m'amuse un peu, Monsieur Palombi, de vous entendre. Le renouveau, je ne vais pas venir sur l'âge, mais il y a un moment donné, il faut être crédible hein, sur les messages. Quand je vois le président de la République, 39 ans, certes, mais je vous l'ai déjà dit, le président de la République est énarque, son premier ministre est énarque, le conseil diplomatique est énarque, le directeur cabinet est énarque, le secrétaire général de l'Élysée est énarque. On a de nouveau l'énarchie, bon, plutôt de l'âge de 40-45 ans, qui va diriger via une élite un corpus de députés qui sont issus, alors on nous gave un peu entre guillemets sur la société civile, mais on est tous à quelque part société civile quand on commence dans la vie. Voilà, donc je voulais le dire, et puis vous connaîtrez, si vous êtes député, la solitude du pouvoir. Vous serez un parmi 577 et vous saurez ce que c'est que d'être député de la ruralité où tout le monde vous regarde comme un zombie en disant, mais qu'est-ce qui nous, de quoi il nous parle? Il nous parle d'un territoire de 75 000 habitants, 15 habitants kilomètres carrés. Alors, je veux bien que les députés étiquettent aujourd'hui, c'est sympathique. Je préfère les députés de proximité.
Monsieur Palombi.
Eh bien, écoutez, d'abord, la proximité me touche de très près. Vous le savez, je suis porteur du message des très petites entreprises de moins de 11 salariés de par ma présidence de la Confédération des commerçants de France. Bon, c'est quand même important. Et tout simplement, quand on porte des valeurs nouvelles, eh bien, on n'a pas de complexe par rapport à son département. Et je rajouterai, vous le savez, ma suppléante de grand talent et de grande qualité, Clio Moline-Chapon, a l'idée, et je la partage, de créer un collectif, un groupe de députés, avec tous mes collègues qui sont comme moi des nouveaux venus, eh bien un groupe de députés qui portent la ruralité dans leur circonscription, comme moi-même en Lozère. Eh bien, on inversera ce jugement un peu péjoratif, petit département, le moins peuplé de France. Eh bien, soyons fiers de la Lozère et faisons-la rejaillir que plus. En nous battant, alors je suis plein d'espoir, de vie, de volonté de réussir. C'est pour cette raison que peut-être, monsieur le député sortant avec 3 mandats, vous me trouvez un peu un grand rêveur. Mais ouais, je rêve. J'ai besoin de rêver pour réussir.
Un peu sidéral. Vous allez réunir vos soutiens jeudi soir. Je constate que vous reconstituez ce qu'on appelle la gauche républicaine avec le retour d'Aurélie Mayol qui était la candidate malheureuse, soutenue par le sénateur Bertrand et le maire de Mende. C'est toute la gauche qui va se retrouver, sauf quand même les Insoumis, Christian Cosse et le Parti communiste français Serge Guesso. Ça a été dit, ils appellent à voter blanc. C'est un élément qui est quand même intéressant, puis-je dire d'ailleurs pour moi un peu. Soit dit en passant, je suis intéressé par la position parce que, au régional, Serge Guesso a été balancé de la liste des régionales par le sénateur de la Lozère. Et nous n'avons qu'une conseillère régionale, alors qu'on devrait avoir en Lozère 2 conseillers régionales. Et donc, j'attends que Serge Guesso regarde un peu ce qui s'est passé. Et puis, je voudrais dire aussi à Serge Guesso, et comme on est dans une période politique charnière, les communistes, aujourd'hui, il faut qu'ils aient une position assez claire. Et je voudrais dire qu'avec la CGT, comme vous dites que vous êtes très ouvert, je voudrais dire que sur l'affaire Kézak, j'ai eu l'occasion de dire et de travailler avec la CGT. Et la CGT a été très correcte dans ce dossier. C'est important. Et il me semble que dans un département rural, lorsque un député s'ouvre à des forces syndicales, quelles que soient les idéologies, c'est une chose importante. Ça prouve qu'on n'a pas besoin de Macron, on n'a pas besoin d'un mouvement En Marche qui plaide aujourd'hui la politique autrement. C'est un concept. On va avoir une Assemblée nationale, semble-t-il, très composite, bizarroïde un peu, avec des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience politique, qui découvrent même qu'elles peuvent être députées sans vraiment savoir ce que c'est qu'un député.
Alors Pierre Morel, justement, dans cette Assemblée nationale, en fonction du résultat dimanche, vous y serez peut-être encore. Vous avez souvent mis en avant tous les soutiens et tous les députés, notamment de cette ruralité dont on parlait tout à l'heure, avec lesquels vous travaillez, quelles que soient leurs étiquettes. Là, le paysage change quand même. On annonce 400 députés, dont beaucoup, beaucoup de nouveaux. Si vous êtes élu, comment ça va se passer dans cette composition de l'Assemblée ?
Qu'on soit jeune député, nouveau député, la ruralité transcende les choses. Et je me fais fort, avec l'expérience que j'ai acquise, de fédérer immédiatement à droite, à gauche, parce que ça existe quand même. Je veux bien qu'on oublie tout ça avec le mouvement En Marche, mais il y a encore ce clivage politique. Je ne désespère pas de réunir encore 60, 70, 80 députés de la ruralité. Donc voilà pour la réponse. Pour ma part,
c'est quelque chose sur lequel vous vous retrouvez, donc, tous les deux.
Oui, ben, de toute façon, on est tous les deux candidats à la ruralité. On défend fondamentalement les territoires ruraux. Je dis simplement que c'est compliqué à Paris, parce que quand vous arrivez à Paris, on vous regarde, qu'est-ce que c'est que ce député unique en Lozère, qui ne représente que 75 000 habitants, et qui représente certes une voix, mais enfin une petite voix. Et donc c'est comme ça qu'on
le
voit à Paris.
Ça va être encore plus compliqué pour vous, avec plus d'un tiers de l'Assemblée qui est renouvelée. Vous aviez beaucoup d'appuis qui en sont certainement pas passés au premier tour de cette élection.
Mais c'est pas des appuis. c'était la conviction de pouvoir monter un groupe de ruralité et de le présider. Et comme par hasard, on a demandé au député de la Lozère d'être le président de ce groupe. Je referai de la même manière. Et puis j'ai quelques amitiés bien placées. On parle d'Emmanuel Macron, mais moi je m'entends très très bien avec mon collégionnaire, le Premier ministre Édouard Philippe, qui a pendant 10 ans partagé les mêmes bancs que moi à la commission des lois. On se connaît très très bien. Et je connais, vous savez, Bruno Le Maire, qui est un ami intime et qui va essayer de sauver les ZRR qui ont été malheureusement abîmés par l'ancien ministre de la Ruralité Jean-Michel Blayer, ami du sénateur de la Lozère.
Donc Monsieur Palombi, Pierre Morel-Essier, qui est dans la majorité présidentielle, il vient de nous le dire, qui va voter les lois qu'il a mis avec le Premier ministre et le ministre de l'Économie. Votre action dessus sur cette assemblée qui est renouvelée, dont vous allez peut-être faire partie.
Mais écoutez, je le souhaite profondément, bien évidemment. J'en ferai partie et je serai actif comme tout député doit l'être. Et surtout, je peux vous assurer que cette nouveauté dans le monde des députés avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, on peut essayer de banaliser ce phénomène qui est en train de se produire depuis la campagne et l'élection d'Emmanuel Macron président. Mais pour autant, c'est quand même un phénomène nouveau. Et, monsieur le député, ne soyons pas presque railleurs par rapport à des députés qui ne sont pas du métier de député et qui ne sont pas du métier de la politique. Eh bien, écoutez, moi, je me fie à ceux qui nous élisent, à ceux qui paient leurs impôts, à ceux qui représentent la société. Ce sont les citoyennes et les citoyens. Et depuis un certain temps, depuis ces dernières années et cette dernière année, les citoyens, les électrices et les électeurs ont vraiment fait exploser leur souhait de voir des citoyens qui pèsent dans la balance des décisions politiques, ce qui n'a jamais été le cas quand il s'est agi de vivre avec une population politique de métier.
Justement, Francis Palombi, on se pose une question en ce moment en France sur ces nouveaux députés qui n'ont jamais été élus, de leur futur comportement, à savoir s'ils vont faire un bloc derrière le président de la République, Emmanuel Macron, ou si chacun aura sa sensibilité, et pourra refuser de voter certaines lois proposées par le gouvernement. Vous, dans quelle optique vous partez ?
On parle de député Godillot, vous avez vous-même utilisé le terme tout à l'heure.
Le député ?
Godillot.
Oui, bien, je réitère mon propos. Je pars avec la volonté de soutenir la politique du président de la République. Mais quand on nous dit qu'on est assujetti d'une manière contractuelle sans plus pouvoir bouger une oreille, je dis non. Enfin, je le pense à l'instant où vous me posez la question. Je vivrai la vie politique à l'Assemblée avec toute ma conviction de bien faire pour le département, déjà. Et si je flécherai, si j'utiliserai un potentiel d'investissement pour la Lozère, eh bien, je le ferai avec ce groupe. Je serai peut-être pas le président de ce groupe, mais peu importe. Mais je réunirai, je proposerai à ces nouveaux députés, femmes et hommes, avec une parité parfaite, eh bien, que nous travaillons à certains moments sur certains sujets. Il y aura des sujets plus nationaux. Mais sur certains sujets qui touchent la ruralité, eh bien, on fera entendre notre voix. Et s'il faut améliorer les lois, Emmanuel Macron est prêt à accepter qu'on revoie la loi NOTRe. On en parlera certainement dans le courant du débat.
On n'a pas la parité. Hein. Les extrapolations font apparaître qu'on passerait à 42% de femmes au lieu de 41%, ce qui n'est pas encore totalement l'équilibre souhaité.
Pas mal.
Dans un début, oui, enfin, on gagne 1% entre il y a 5 ans et aujourd'hui.
On verra au second
dans
tour.
Dans le système après. Parlementaire français, le mandat de député est un mandat non impératif. Le député doit garder son libre arbitre. Dès lors qu'il y a une contractualisation dans un système politique comme En Marche, on cadenasse déjà le dispositif, ce qui est un peu dangereux. Et puis, j'ai connu les grands groupes, hein, les grands groupes parlementaires à plus de 300 députés. Très difficile à gérer et des individualités qui essayent d'apparaître. Aujourd'hui, on est dans l'espoir, dans l'incantation, tout nouveau, tout beau. Je souhaite voir dans 3-4 mois ce que ça donnera.
L'état de grâce, un peu.
Oui, mais ça passera très vite. Vous allez voir la rentrée sociale. Il y a une élection présidentielle, il y a une élection législative. Elle n'a pas changé les institutions de la 5e. Ça n'a pas changé les comportements syndicaux. La loi sur le travail, même par ordonnance, il faut une loi. ça ne peut pas se voter et ça ne peut pas être signé sans une loi. On voit que les aspérités vont commencer. D'ailleurs, aujourd'hui même, on voit que le Premier ministre est obligé de recadrer son ministre de la Justice. Ça ne fait que commencer. Et je vous annonce qu'on aura des lendemains qui chantent très rapidement.
On va y venir, hein, puisqu'on va rentrer sur les programmes. Mais Pierre Morel, on a bien compris que vous alliez plutôt être dans une opposition constructive.
Oui.
On peut dire ça comme ça ?
Oui. Toute ma vie, j'ai voulu modifier des choses. Et c'est compliqué quand vous êtes député de la ruralité. Et j'aspire à plein de choses, et notamment plus de dotations, les zones franches en milieu rural. Ça fait 15 ans que j'essaie de l'obtenir. Il n'y a pas moyen. La problématique de l'agriculture, on avait 4600 exploitations, on est passé à 2800 exploitations. Voilà, c'est compliqué. Par contre, il va y avoir une déclaration de politique générale. On va voir ce que le Premier ministre, qui est responsable de l'Assemblée nationale, va dire. Il va peut-être expurger un peu le programme présidentiel. S'il y a l'augmentation de la CSG d'1,7, c'est non. On ne peut pas aujourd'hui demander à des ménages, à des retraités, une hyper-fiscalisation, alors qu'on est déjà, si on prend un couple avec enfant, à 40% de fiscalité, là dans les pays européens, on est à 26%. Donc là, il y a un point d'achoppement. Je ne voterai pas l'augmentation de la CSG.
Ça sera la ligne rouge un petit peu.
Ah, c'est pour moi une ligne rouge. Et puis, il faudra ensuite qu'il y ait des réponses concrètes sur comment on préserve la retraite par répartition. Il ne s'agit pas de passer à 65 ans. Il s'agit de savoir comment les actifs payent les retraités. Il faudra aussi voir comment on monte la retraite minimum à 1 000 euros. C'est des sujets, ça, que les gens attendent. Et je serais curieux de savoir, parce que entre le moment où on dit et le moment où on veut faire, il y a un fossé.
Bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de
La taxe d'habitation, 80%. Il faut en faire une analyse. Qui va compenser la non-rentrée fiscale ? L'État ? Mais où est l'argent ? On est à 2200 milliards d'euros de déficit. Monsieur Macron ne dit pas où il va chercher l'argent. Et donc on peut dépenser à tue-tête, encore faut-il trouver de l'argent. Là aussi, je ne suis pas d'accord avec une mesure que l'Association des maires de France n'a pas agréée. Vous allez voir, quand on va vouloir toucher, il va falloir réviser la loi NOTRe, mais quand on voudra toucher région, département, mairie, AMF, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et l'Association des régions de France seront là en veille et diront, tout petit Macron qu'il est, on ne veut pas ce qu'il veut. Voilà. Il y a un moment donné des structures qui n'acceptent pas qu'on préjuge à leur place.
Monsieur Palombi, je vous vois opiner de la tête.
Oui, un peu, parce que d'abord, c'est un discours un petit peu. C'est un discours que je qualifierais presque un peu de critique, mais déjà, on présume qu'on va être contre ça. On va être contre ça. Alors, vous êtes un peu paradoxal, parce que il y a quelques instants, vous disiez, toute ma vie, j'ai œuvré pour être dans une majorité constructive, etc. Eh bien, moi, je ne vous tiens pas le même propos. L'argent, on le trouvera, et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans sa ligne projet-programme jusqu'à son élection, a bien expliqué, il a même chiffré 1,7 sur la CSG, et un impôt qui permettra une augmentation d'un impôt généralisé qui porte sur toute la collectivité de la France, qui permettra de défiscaliser et les entreprises et les salariés, qui permettra au pouvoir d'achat d'augmenter, qui donnera un 13e mois sur le calcul d'un SMIC annuel, eh bien, je pense que c'est des mesures appréciables. Mais si vous commencez à démolir, quelque part, comme vous venez de le faire, ces mesures phares qu'a évoquées Emmanuel Macron, ça présage pas d'une action dynamique, d'une action coopérative. Non, moi je suis convaincu.
Il va augmenter les impôts, pour ensuite les redistribuer.
Mais il va faire des économies aussi, monsieur le député.
Ça va être compliqué. Oui, 120 000 fonctionnaires de moins.
Oui, mais
attention, ça va faire mal.
Nous l'avons dit dans un autre débat. Ces 120 000 fonctionnaires, ce n'est pas 120 000. On les fout à la poubelle. Pas du tout. Les fonctionnaires, c'est un corps très important dans notre société française.
Ce n'est pas 500 000 comme proposait François Fillon que vous souteniez.
D'accord, mais bon, le choix a été fait, mais j'observe qu'un candidat nouveau propose de réduire les postes de fonctionnaires.
Oui.
Attention aux territoires ruraux.
Mais pas n'importe où. Il ne faut pas réduire les fonctionnaires.
Ah non,
en
aujourd'hui, en tout cas en Lozère, les ratios sont que on ne peut plus continuer.
Non, mais en France, il ne faut pas réduire les fonctionnaires.
En France, il y a quelque chose qui ne va pas. L'organisation administrative française, les ministères, datent de 1945. Depuis 1945, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Équipement, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé sont organisés de la même manière. Il y a un audit globalisé à faire pour savoir si à un moment donné, il n'y a pas des structures, il n'y a pas des postes qui servent à rien. Il faut redéployer. Et envoyer un peu en Lozère. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire une instruction de permis de construire, il y a moins d'agents qui, dans les DDT, on a failli perdre une gendarmerie. Je l'ai sauvée parce que je suis colonel de réserve. Je le dis aujourd'hui parce que, jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas trop le dire. Voilà. À un moment donné, il y a, on est à l'os dans des départements ruraux et il ne faut pas y toucher. Après, il y a d'autres, encore d'autres problèmes.
C'est très
sur
bien,
la police et la gendarmerie.
Monsieur Morel, mais c'est ce qui s'est passé également quand vous faisiez partie de la majorité avec la RGPP. Vous parliez de la dette publique.
Mais
la majorité de Nicolas Sarkozy n'a pas fait baisser la dette publique.
Oui, mais ça fait plaisir de toujours envoyer l'héritage. Mais je constate.
Ah, on est bien obligé.
Mais alors, il faut être honnête. Et là, vous ne l'êtes pas.
Moi, je vous donne les faits.
La RGPP de Nicolas Sarkozy, c'est consécutivement en 2008 avec une crise financière et économique. Il a fallu réduire un certain nombre de fonctionnaires. Ensuite, on a enlevé 250 fonctionnaires en Lozère. Que je sache, ils n'en ont pas recréé un depuis 5 ans. Et ils en ont enlevé 130. 130. Certains ont été manifestés, comme le sénateur, sur le Blémard, Méruès et l'Huilefort pour les perceptions. On a vu ce que ça donnait. Donc, à un moment donné, ce qui n'allait pas... Ils auraient pu rectifier, remettre le tribunal d'instance de Florac, remettre le tribunal d'instance de Marvejols. Non seulement ils n'ont pas recréé des postes, ils en ont supprimé. Donc aujourd'hui, pas de leçon à recevoir.
Moi, je voudrais dire juste un mot. Je m'effare de voir qu'on est en train de faire le procès du précédent gouvernement, alors qu'on vient de démarrer une nouvelle présidence, un jeune président, un mouvement politique nouveau, La République en marche, avec d'énormes projets pour redresser la France, avec un retour au sein de l'Europe pour peser au sein de l'Europe, et nos agriculteurs en savent quelque chose. Donc, monsieur le député, je vous sens peut-être un peu usé par le pouvoir.
Non, je vous dis, je comprends, monsieur Francis Palombi, que vous soyez dans un rêve. Vous allez peut-être devenir député.
Il va devenir réalité.
Un rêve, à 68 ans, vous allez terminer votre vie, vous l'avez dit, en Lozère, peut-être comme député. Mais ça fait pas l'évolution de la société, ça part sur quelque chose de virtuel, de conceptuel. J'ai l'habitude d'être face à la réalité. Vous savez, on devait réinventer le rêve socialiste. On a vu au bout de 5 ans ce que donnait le rêve socialiste. Ça a été un cauchemar avec 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres.
Et le rêve de droite, il n'a pas toujours abouti parce que Emmanuel Macron à Rungis, il y a un mois et demi, j'étais à ses côtés, il a parlé aux salariés, il a parlé aux entreprises. Il leur a dit, je ne suis ni content des uns, ni content des autres, maintenant il faut construire. Que votre candidat
fétiche parle aux gens, je comprends. Il a fait 20% à la présidentielle, il n'a pas été élu par volonté directe, il a été élu par défaut, puisqu'on ne voulait pas le Front National. Voilà la réalité. Donc il est un président de la République un peu par accroc.
Il était quand même en tête au premier tour.
Oui, mais il représente combien ?
Il a terminé avec un...
Mais avec à peu près 24%.
Même en Lozère. 24%,
un quart de la population qui s'est exprimée. Voilà la réalité, la base sociétale du président de la République. Ensuite, le résultat du second tour, il faut l'analyser d'une autre manière.
Oui, mais on ne peut pas toujours s'appuyer sur la référence pour faire barrage au Front National. Emmanuel Macron représente... Le nouveau, le renouveau, la nouveauté, l'espoir, oui, le rêve peut-être aussi d'une politique nouvelle, d'une politique retoilettée complètement, d'une politique beaucoup plus démocratique.
Mais vous savez, le jeunisme, le changisme, je ne vais pas dire d'autres termes qui terminent par isme, tout ça, non mais faire la politique autrement, sur un chemin, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit, sur un chemin, certes le jeune va plus vite, mais le vieux connaît le chemin.
Mais j'ai écouté une politique de la région, Madame la Présidente Carole Delga, qui était déjà dans vos lignes du Midi Libre, qui était déjà en opposition quasiment sur toutes les orientations d'Emmanuel Macron, alors que sa candidate parlait de la candidate vous a rejoint,
elle vous soutient. Carole Delga, présidente de la région, est députée depuis 5 ans. Elle est présidente de région, elle ne va jamais à l'Assemblée nationale, mais elle a continué à avoir l'indemnité. Voilà, ça c'est une conception que je ne peux pas accepter. Quand on est président de région, notamment de la région Occitanie, on ne peut pas être député. Voilà, à un moment donné, il faut faire attention.
On parlera de tous ces sujets après. Vous êtes un peu en retard, Francis Palombi. Peut-être sur la taxe d'habitation, Pierre-Morel Huissier a lancé sur le sujet.
La taxe d'habitation, bien évidemment, je la voterai. Et je considère, et je l'explique aux maires, avec loyauté, en les regardant droit dans les yeux. Oui, la taxe d'habitation, c'est un impôt parmi les plus injustes, parce que si on l'analyse, comment elle porte, comment elle est perçue et quelle est sa tarification et sa grille de référence, eh bien c'est un impôt injuste. Emmanuel Macron veut économiser 60 milliards, mais il veut investir et il veut créer des investissements à hauteur de 50 milliards. Donc 10 milliards pour le territoire et 5 milliards pour les agriculteurs. C'est pas du rêve, ça. Ça, c'est du concret. Maintenant,
c'est une incantation. C'est une incantation.
C'est une incantation, mais quand on est en politique, on candidate, vous candidatez à votre quatrième mandat. Moi, je candidate à mon tout premier. Eh bien, quand mais, vous avez démarré...
Quand vous le dites, vous avez mais Francis Palombi,
Jacques Blanc, vous le tenez.
Ça fait 10 fois que vous Palombi, dites que je suis au quatrième mandat. Sauf que je terminerai avant... Au niveau âge, c'est pas un argument. J'ai 58 ans, j'aurai 63 ans.
C'est un constat.
Vous avez 68 ans, vous aurez 73 ans.
Mais ça, c'est mon âge.
Vous allez voir ce que c'est que les débats nocturnes à l'Assemblée nationale.
Eh bien, vous pensez que c'est pas la joie. Dormir ? Non, je ne dormirai pas.
On a tendance à s'endormir vers 23 heures. C'est un peu compliqué.
Ah, écoutez, vous présumez beaucoup. Je suis plutôt un gros travailleur, certainement par expérience. Là, j'écoute vos conseils quand même.
Et j'essaierai de vous en donner si vous êtes député.
Voilà. Vous semblez me promouvoir vers la députation et je m'en félicite.
Écoutez, vous êtes candidat, vous avez un potentiel, j'ai le mien, mais bon,
voilà, et nous avons
j'intègre
nos,
dans ma,
nos
dans
qualités,
ma, j'intègre dans ma réflexion que je peux aussi être battu. C'est,
bien sûr.
C'est honnête.
Et que vous pouvez devenir coach de député.
Oui, je pense parce que je vois Francis Palombi découvrir beaucoup de choses en Lozère, donc je crois qu'il faudra que je l'aide beaucoup sur certains dossiers.
Alors, découvrir beaucoup de choses, mais depuis l'âge de 2 ans, et je suis toujours revenu à mes sources qui sont la Lozère, et c'est là où je finirai ma vie le plus tard possible.
Allez,
une petite question quand même.
Allez, avant une pause musicale, faire une petite pause à une heure.
Une petite dernière.
Vas-y.
Allez. Sachant que M. Palombi a un peu de retard sur le temps de parole, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le sénateur de la Lozère, avec qui on sait vous ne vous entendez pas forcément très très bien, qui aujourd'hui se déclare être de la majorité présidentielle. Alors je vous pose la question à tous les deux, comment, en cas d'élection d'un de vous deux, comment allez-vous travailler avec lui? Parce que c'est...
Bah déjà, il faudrait qu'il travaille avec le député sortant. Or, il va jamais au Sénat. Il suffit d'aller sur député.fr pour voir l'inconsistance de son activité. Il a quand même passé 5 ans, ou même un peu plus, pour ne faire passer aucune loi. Aucune loi. Donc, voilà, c'était un garçon, un homme très sympathique, qui aime bien vivre. Il le dit, la Lozère, c'est la bonne bouffe. C'est
le pays des merveilles.
Oui, c'est les cèpes, la pêche, la chasse. Oui, mais ça suffit pas.
Vous êtes chasseur aussi.
Monsieur le sénateur, il faudrait retrousser les manches et essayer. Il a laissé passer la suppression des ZRR. Il a laissé passer la baisse drastique des dotations. Il a inventé un terme, l'hyper-ruralité, qui n'est dans aucune loi, dans aucun décret, dans aucune instruction, dans aucune circulaire. Je suis sévère, mais c'est la réalité.
Donc, du coup, vous ne retravaillerez pas avec lui si vous
mais
êtes élu
question,
et que lui est
question de travailler.
C'était la question de Caroline.
L'Assemblée nationale a le dernier mot. L'Assemblée nationale a le dernier mot au niveau législatif.
Monsieur Palombi, avec le sénateur.
Ah, alors, moi, je
reprends
un peu... Des
relations un peu tendues ces dernières semaines.
Je fais une remarque sur les propos de monsieur le député sortant. C'est quand même un discours agressif. C'est pas un discours rassembleur. Je pense que si je suis élu député dimanche prochain, j'ai à cœur, d'abord, de travailler avec toutes les forces du pays, qu'elles soient citoyennes, associatives... sénateur, présidente de la région, quelle qu'elle soit, qu'elle soit de droite ou de gauche, ça m'indiffère complètement. J'ai l'habitude d'échanger, d'avoir commencé à travailler avec Sophie Pantel, c'est vrai, qui est une brillante présidente du département et qui fait avancer certains gros dossiers, dont la téléphonie, et ce n'est pas simple, on en parlera certainement en cours de débat. Donc moi, je vous regarde les uns et les autres droit dans les yeux. Je travaillerai avec toutes les forces lozériennes, quelle que soit leur couleur politique. Et quand j'entends des réactions de la mairie de Mende, par exemple, qui est quand même la préfecture de la Lozère, il semblerait qu'en tant que député vous de droite, eux de gauche, vous n'avez pas toujours eu une appétence pour travailler avec eux. Alors, c'est des réactions qui me sont remontées dans mes contacts.
Non, mais c'est intéressant. On va voir avec Aurélie Mayol l'amour fou que vous allez vous porter dans les mois à venir, une fois que les élections seront passées. Je veux bien qu'on fasse l'évêque, un peu Ponce Pilate, mais la réalité est tout autre. Il y a des problématiques quand même politiques, et il y a des individus qui portent plus en avant des intérêts de la Lozère que d'autres. Voilà, c'est ce que je dis simplement.
Il semblerait qu'elle veuille travailler avec la majorité présidentielle.
Et ça joue sur la droite ou la gauche, ou c'est les individus avec leurs valeurs? Moi, je pense que c'est les individus avec leurs valeurs, qu'ils soient de droite ou de gauche. Si tant est que ça veuille encore dire quelque chose.
Allez, très bien, monsieur, on va faire une petite pause musicale pour boire un petit coup, se rafraîchir, et on revient de suite après. Allez, nous voici repartis pour la deuxième et dernière partie de cette émission qui dure jusqu'à 1h30 avec donc Pierre Morel à l'huissier et Francis Palombi pour ce second tour des élections législatives en Lozère. On va parler programme maintenant, au niveau des programmes, deux grands projets chacun. Francis Palombi, faire de la Lozère une zone franche ou prioritaire, expliquez-nous.
Bien, écoutez, tout simplement, il y a des lois comme les ZRR qui sont survenues, qui ont été remises en question sur le plan de la répartition, c'est inquiétant. Moi, je pense qu'un département comme la Lozère, qui a la nécessité de se repeupler, de garder les jeunes, ou même de les attirer, ma suppléante a failli ne pas pouvoir rester en Lozère à partir à la fin de ses études. Bon, elle y est revenue parce qu'elle a une forte conviction. Je considère qu'il est absolument nécessaire de mettre en place, avec d'autres Et je me répète, pas tout seul, je ne suis pas le Don Quichotte de la nouvelle Assemblée nationale qui va sortir des urnes dimanche soir, non, pas du tout. Mais avec d'autres, eh bien, mettre en place des règles. Quand on arrivera en Lozère, quand on va créer une plateforme extraite d'une grande métropole ou de la région parisienne pour mettre un service de l'État en place bien réparti pour le service aux citoyens, des investissements qui sont à prévoir. La zone franche, on en parle souvent pour la sécurité, mais si on l'applique à l'économie, eh bien, c'est tout comme. Nous avons des conditions montagne, nous avons une altitude de 1000 mètres moyenne, c'est quand même la montagne. C'est pour cette raison que tous les acteurs qui vivent dans ce département, politiques, citoyens, associatifs, doivent pouvoir se doter d'une force par des avantages qui seront à définir, qui seront répartis sur le plan travail, sur le plan apprentissage. Vous savez qu'en France, Emmanuel Macron a mis le doigt dessus très fortement. Nous sommes très en retard sur l'apprentissage. Nous avons trop de règles qui freinent l'apprentissage et je formule beaucoup d'espoir quant à l'évolution de la loi travail. J'ai bien dit l'évolution parce qu'Emmanuel Macron est clair. On libère et on protège.
On reviendra sur la loi travail. Justement, que pense Emmanuel Macron de la ruralité? C'est vrai qu'on l'a très peu entendu sur ce sujet.
Alors, moi, je suis un peu surpris. Peut-être c'est votre perception, et je la respecte, ou peut-être la perception de monsieur le député. Moi, je dirais que non, parce qu'il a sillonné la France et il est allé dans bon nombre de petits départements, dans le Cantal, dans l'Aveyron. Il ne nous a pas fait l'honneur et le plaisir de venir en Lozère, mais ça viendra quand je serai député. Et donc, je pense qu'Emmanuel Macron a bien compris qu'il fallait redonner du pouvoir au territoire. Il est absolument favorable au territoire. Qu'il fallait doter le territoire de 10 milliards d'investissements, donner plus de pouvoir et plus d'initiatives, y compris au sein de ceux qui sont des fonctionnaires. Et pour les agriculteurs, eh bien, écoutez, je suis clair, je suis net, je le rappelle, il y a bien sûr, en tant que député, à récupérer cette manne de 5 milliards pour la transition agricole, parce que la transition agricole, ce n'est pas que des lois de protection ou des soutiens sur le territoire proprement dit, c'est également favoriser la succession. Vous savez qu'un jeune agriculteur actuellement, et vous le savez, monsieur le député, parce que vous sillonnez la Lozère depuis trois mandats, eh bien, vous pouvez constater qu'il y a des jeunes agriculteurs qui ne peuvent pas reprendre leur activité. J'ai constaté également dans mon petit village de Belvézé qu'il y a une initiative de groupement collectif d'agriculteurs qui crée des emplois mutualisés. Eh bien, hier, un ami agriculteur de ce village me disait « Ça mériterait que, si tu deviens député, tu forces le trait sur ce type de soutien pour la création d'emplois dans le milieu agricole ». Donc je serai très, très, très attentif au milieu agricole.
D'accord. On comptait parler d'agriculture après, mais c'est bien, vous avez enchaîné. On entendra Pierre Morel à l'huissier dessus. Moi, je voulais vous parler de votre Agence nationale de la ruralité, qui est un point central de votre programme.
Vous n'êtes pas d'abord contre les zones franches, hein, vous l'avez dit tout
à l'heure. Non, au contraire, j'ai déposé une proposition de loi il y a 15 ans. Le problème, c'est que ça existe déjà. Vous avez des zones franches dans des quartiers sensibles, notamment à Montpellier, mais vous en avez, je crois, une vingtaine en France. On appelle ça les ZFU, les zones franches urbaines. Chez nous, ça s'appelle les ZRR. Les ZRR, par rapport aux zones franches, ont un peu moins de dispositifs d'exonération fiscale et sociale que les zones franches urbaines. Le problème, c'est toujours budgétaire. Et Bercy nous dit, si vous mettez un curseur plus important sur des exos, ça coûte beaucoup d'argent à l'État. C'est ça le problème. Donc oui, pour une zone franche, bien évidemment, mais il va falloir faire passer le concept au niveau national. Sur l'Agence nationale de revitalisation rurale, en fait, je mets en application ce que M. Borloo a fait dans la ville. Il a créé l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui restructure toutes les barres d'HLM et les quartiers dits sensibles. Je demande simplement le pendant pour la ruralité, c'est-à-dire 10 milliards d'euros côté urbain, 10 milliards d'euros côté rural, 1 euro dans le rural, 1 euro dans l'urbain. L'agence aurait comme capacité, non pas de se substituer au préfet sur la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, mais elle financerait des projets structurants sur l'ensemble du territoire rural. Je rappelle que le territoire rural, c'est 80% du territoire français. Donc, par exemple, une grande politique sur les télécentres. une grande politique sur la télémédecine. Voilà, ça serait des sujets comme ça, un peu ce que la DATAR faisait il y a 25 ans et qui a été un peu abandonné. Je note simplement que Francis Palombi parle de 10 milliards d'euros pour les territoires. 10 milliards d'euros sur 80% du territoire français. Il restera quoi pour la Lozère ? Si on applique toujours ça au terme de population, ça ne va pas aller très loin et ça m'inquiète pour la RN88.
Justement, Monsieur Palombi, vous êtes contre ce critère de population ?
Ah, complètement, bien sûr.
Oui, mais tout le monde, on ne peut
bien
pas
sûr,
être...
C'est injuste, bah, c'est anormal, c'est inconcevable.
On ne peut pas être député de la Lozère...
Je continuerai à me battre pour.
Et d'être député de la Lozère, accepter que le critère population, c'est un peu fou, nous limite dans les dotations. Ouais. On nous dit, on vous donne de l'argent en termes de population, c'est fou. Évidemment, à 78 000 habitants, on a des cacahuètes. On vous limite en ratio de postes de fonctionnaires. À un moment donné, c'est idiot, parce qu'il faut quand même qu'on couvre le territoire. Et puis, alors, la chose plus grave qui me blesse beaucoup, c'est qu'on vous met des ratios également sur des lits de maisons de retraite et des lits de centres pour personnes handicapées. C'est une vocation que nous avons prise en Lozère. Si maintenant on nous dit vous avez trop de lits d'accueil, c'est quoi ces ratios ? Là, c'est très grave parce que c'est le premier employeur de Lozère. On ne peut pas dire à un moment donné aux Lozériennes et Lozériens, vous avez trop de lits pour des centres d'handicapés. Ça, c'est attentatoire à notre vocation.
Rapidement, parce que vous êtes en avance sur l'agriculture, on voit en ce moment le problème des producteurs laitiers et plus globalement de la difficulté du monde agricole de vivre de sa profession. Quelles solutions vous proposez pour aider les agriculteurs dans le modèle lozérien ?
Écoutez, il faut d'abord garder l'enveloppe budgétaire de la PAC. Il ne faut surtout pas qu'elle baisse. Donc là, il y a une politique à mener au niveau national, au niveau communautaire, avec un ministre de l'Agriculture, Penchi. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit tout à fait le cas. Ensuite, il faut que la spécificité des petites exploitations soit prise en considération. Il faut rectifier le tir sur l'ICHN, l'indemnité compensatrice de handicap naturel. Il y a des zones qui sont à une certaine dotation et d'autres moins. Il faut aussi arrêter d'enquiquiner les agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont pris dans un système administratif de contrôle anormal. Et vous avez notamment sur les rases, ce qu'on appelle les petites rigoles pour traiter les prairies, on a là un vrai problème. C'est l'ONEMA, la police de l'eau qui intervient, elle est armée, elle fait des photos, des PV d'infraction, elle transmet ça au procureur de la République, et l'agriculteur se trouve devant un tribunal correctionnel. C'est pas possible. À un moment donné, tenons compte de la qualité de nos produits et du fait que les agriculteurs lozériens sont des environnementalistes, parce qu'ils abîment pas beaucoup la société. Et ça, c'est une nouvelle culture.
D'accord, faut pas enquiquiner les agriculteurs. Francis Palombi, comment on aide le modèle agricole lozérien ? Comment on aide les agriculteurs lozériens dans ce modèle ?
Eh bien, d'abord, on l'aide en fléchant, en utilisant, en pesant de tout son poids, en se battant à l'Assemblée pour créer des amendements et faire revenir ou attribuer, flécher de l'argent dans le cadre de la transition. Parce que quand j'ai parlé de 5 milliards de transition agricole, les agriculteurs m'ont dit oui, pour les grands agriculteurs de la Beauce. Je leur ai dit non, pas que, et surtout pour vous, du fait que nous parlons également de la zone prioritaire franche, eh bien, il y aura des critères qui seront attribués. Je touche de très près ce dossier de l'ICHN. C'est vrai qu'il y a des disparités sur le territoire et il faut absolument les combattre. Il y a aussi le plan bâtiment que vous m'avez contesté tout à l'heure, mais le plan bâtiment nécessite une rallonge pour que les jeunes agriculteurs aient envie de venir travailler dans de bonnes conditions et également pour la protection animale indirectement, parce que si les animaux sont mieux traités, c'est que mieux pour eux, et puis pour la viande qu'on va consommer. Donc il faudra être très vigilant. Ce ne sera pas facile, parce que la ruralité n'est pas toujours plébiscitée à sa juste valeur, mais il y a aussi pour les agriculteurs, j'ai parlé des successions, mais je parlerai de l'apprentissage, je parlerai de la formation, et sur ce plan, ma suppléante est particulièrement pointue par rapport à ces questions de formation. Et également avec des plans qui éradiqueront le chômage, ce qui nous fera gagner beaucoup d'argent pour compenser des investissements.
Autre point d'accord, la revitalisation des centres-bourgs. Par contre, comment aider à cette revitalisation ? Restez avec vous, vous êtes en train de parler, Francis Palombi. Comment on peut aider les centres-villes à renaître un peu ? On voit les difficultés qu'ils ont en ce moment, surtout en Lozère.
Comme nous sommes en phase d'un nouvel interview, je vais en parler. C'est vrai que ça ne s'est pas fait en un jour. On m'a reproché que depuis 3 ans, on parlait des coopératives de développement économique sur un modèle québécois qui ne peut pas être appliqué tel qu'en France. J'ai même eu, et je n'ai pas à renier que j'en ai parlé avec monsieur le député à l'occasion sur cette question. Là, j'avais ma casquette de président des commerçants de France. Nous ne parlions pas de politique. Eh bien, les coopératives de développement économique, vous savez, ce sont des SIC, ce sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il y en a plein. Il y en a 600 en France et notamment dans le secteur agricole. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est le seul moyen de rassembler toutes les forces économiques au sein d'une ville pour peser de son poids vis-à-vis de l'acteur public, vis-à-vis de la communauté de communes. C'est demander qu'on flèche une partie de la TASCOM sur le centre-ville de Mende par rapport au centre-ville de Mende ou de Florac ou de Langogne, etc. Oui, ça n'a pas été facile. J'ai fait travailler cette loi pour la France. Je l'ai présentée à l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron, à Martine Pinville. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous allons rentrer concrètement, après présentation du dossier, dans une phase, tout nouveau projet, toute nouvelle structure s'expérimente. Et à partir de ces expérimentations, on améliorera bien sûr le projet. Parce que si on ne revitalise pas les centres-villes, si on ne préserve pas le lien social, eh bien, c'est l'appauvrissement en général de notre tissu local et du territoire.
Pierre Morel-Lucier.
Oui, je connais le concept. Il est particulier. Il n'est pas adapté pour l'instant en France. Je sais le combat que mène M. Palombi. Le problème, c'est comment on finance. Et si ce sont les acteurs économico-sociaux qui doivent le faire, le long d'une rue principale, avec une contribution volontaire, je crains que ça échoue. Voilà, mon problème est là. Ensuite, concernant le commerce centre-ville, si on n'aide pas dans des communes comme à Mende, comme à Langogne, comme à Marvejols, le maintien de ces petits commerces ou ces commerces de proximité, ils vont se fermer. Et donc là, il y a une politique financière d'accompagnement important. Et c'est là où il faut faire attention. Quand on installe une autre zone d'activité économique, comme c'est le cas à Mende, il faut faire attention à ce qu'on installe. Parce que si on installe quelque chose qui est en concurrence directe avec le petit commerce, on va abîmer tout ce qui existe. Donc là, il y a un travail à faire en concertation avec les professionnels qui sont installés, avec la CCI notamment. Mais encore une fois, sur le commerce en centre-ville, je prends par exemple le cas de Marvejols. Ce qui est compliqué aussi, c'est que vous êtes dans 2 portes historiques et donc vous êtes sous compétence DRAC et monument historique ABF. Dès que vous voulez faire quelque chose, vous heurtez à une administration de protection du patrimoine. Il faut alléger ça pour essayer de créer des îlots et permettre à des citoyens de se rendre dans le commerce et aider le commerçant à passer le cap, parce qu'il s'en sort pas.
Et rendre les parkings gratuits dans les centres-villes avec des aménagements. C'est pour cette raison que s'il y a une coopérative qui rassemble les acteurs économiques principalement, la communauté de communes, la commune, les acteurs consulaires, chambres de commerce et d'industrie, très favorables à ce projet, je le dis au passage, j'ai eu l'occasion et je travaille énormément avec Thierry Julien, entre autres, Florence Vignal et parfois également avec Madame Valentin, parce que les agriculteurs vendent aussi, notamment sur nos marchés. Les marchés sont à protéger dans le cadre de cette politique du centre-ville. Et monsieur le député, je vous fais remarquer que quand on est dans un pays quand même qui se veut d'être libéral, on ne doit pas attendre tout et toujours tout du financement public. Il faut que s'assument les entrepreneurs, mais il faut soutien, accompagnement, fléchage d'aides financières pour ces coopératives futures. Et on fait un constat, il est regrettable, j'aurais préféré dire que c'est un succès. Mais malheureusement, l'office de commerce à Mende qui est géré, qui est animé, qui est conçu, qui ne représente aucune cotisation pour les commerçants, ça s'avère aujourd'hui un échec. Et j'en ai parlé même avec le maire de Mende il n'y a pas très longtemps, pas plus tard que ce matin. Il reconnaissait que certainement il faudra changer le système.
Moi, je préfère reste un entrepreneur. Plutôt que de financer avec de l'argent public les coopératives, je préfère financer directement, aider directement les commerçants qui sont installés. Mais cela passe aussi par une baisse de charges drastique et par une réforme du code du travail.
C'est
là-dessus, Sabine Dalle, ma suppléante, est une spécialiste. Elle travaille avec près de 400 employeurs qui souffrent beaucoup d'un code du travail très sclérosé. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les syndicats aient beaucoup évolué en la matière.
On va passer à un autre sujet assez rapide, parce que ça fait des années qu'on en parle, ce serpent de mer qu'est la RN88, Caroline.
Oui, alors cette RN88, quasiment 20 ans d'un dossier qui est sur la table, qui avance vraiment à tout petit pas. Pierre Morel, vous nous l'avez fait parvenir, le soutien de Laurent Vauquiez. Malgré tout, on peut de ce côté-là avoir quelques inquiétudes, parce que le contournement est quasiment terminé au Puy-en-Velay. On sait que du côté Aveyronnais, les choses sont prêtes. Il serait quasiment prêt à passer par Brioude, Laurent Vauquiez. Alors, est-ce que c'est pas un peu inquiétant?
Non, mais c'est quand même extraordinaire que vous trafiquiez le dossier. Je vous le dis très clairement, malgré toute la sympathie que je vous porte. C'est une route nationale. Que fait l'État? Où est l'argent de l'État? C'est pas une route régionale. Pourquoi vous me dites Laurent Vauquiez? Laurent Vauquiez, il fait son boulot. Là où l'État lui met de l'argent, il dit je mets 50%. L'État, vous savez, c'est ce qu'on appelle les contrats État-région. Au puits, l'État a mis de l'argent. Et donc, Vauquiez a dit, je finance. Il me dit, je débloque 100 millions d'euros demain pour toute la section de Haute-Loire jusqu'à Langogne, si l'État met de l'argent. En Lozère, ça coûte 1 milliard d'euros au bas mot. L'État ne met pas un centime. À partir de ce moment-là, si l'État ne décide pas d'engager des financements sur une route nationale, comment voulez-vous que les régions interviennent?
Et comment, et puis, justement, demain, ferez-vous mettre de l'argent?
Eh bien voilà, c'est le problème. C'est que là où je ne comprends pas, c'est que le président de la République fait beaucoup dépenser, mais je ne vois pas aujourd'hui où il trouve l'argent pour les grands équipements. Je voudrais qu'il nous dise, à un moment donné, je prévois 25 à 30 milliards d'euros sur des grands équipements en France, dont 2 à 3 milliards d'euros sur la 88. J'attends.
Eh bien, écoutez, vous n'attendrez pas longtemps, parce qu'on va s'en occuper une fois élu. Hein. C'est ma réponse. Quant à la position de M. Vauquiez, bon, ça reste quand même sur certains points un peu flou. Mais bon, on va pas...
Et Madame Delga, vous avez une réponse? Vous deviez la faire venir à Langogne depuis 6 mois. On attend toujours.
Eh bien, écoutez, je suis pas plus satisfait de Madame Delga, monsieur le député.
Je suis heureux de vous l'entendre dire.
Mais je le dis parce que pour ce dossier précis, je généralise pas, je ne conteste pas sur le fond la position de la présidente, mais je conteste bien sûr sur ce dossier une absence suffisante de réponses concrètes. Alors, l'argent, vous êtes très expérimenté. Vous avez effectué ces mandats, donc vous apportez presque un aveu d'échec. Parce qu'après 15 ans de députation en Lozère, vous dites, Caroline Gaillard dit, on a avancé à tout petit pas. Pourtant, il y a eu parfois en Lozère, celui qui vous a mis sur orbite et qui a fait de vous un homme politique qui a fait une brillante carrière, eh bien, c'est M. Jacques Blanc, que j'ai eu le plaisir, l'honneur de rencontrer il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Et M. Jacques Blanc, quand il y avait des présidents de la majorité à laquelle il appartenait, je pense qu'il a su quand même, peut-être les circonstances ne sont pas totalement les mêmes, mais il a su développer la A75. Heureusement que la A75, alors on pourrait discuter de son tracé, mais là, ce n'est pas le souci. Alors, moi, je considère que les forces politiques lozériennes sont un peu en aveu d'échec. Alors, je vous dis franchement, je pars avec toute ma volonté, toutes mes espérances, toute ma foi pour me battre et dire à Monsieur le Président de la République et au gouvernement, 50 milliards pour le 10 milliards pour le territoire déjà, eh bien, on va parler un petit peu quand même du contournement, on va parler d'aménager des zones sur le tracé de la RN88 et je suis tout à fait favorable en ce qui me concerne à ce qu'il y ait des échanges interpolitiques avec Monsieur Vauquiez, avec la Présidente de la région, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Laurent Vauquiez, elle a dit, je finance la 88 dès lors qu'on me demande un financement. Le problème, c'est qu'il y a un vrai blocage sur la commune de Pradelles. Et l'État, au niveau de la... Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. J'ai ce défaut de bien connaître les dossiers. La direction des routes à Paris ne veut pas de la 88. Ils considèrent que c'est une route qui n'est pas une route de dégagement du couloir rhodanien. C'est un combat. Lorsque Jacques Blanc était à la région, il est arrivé avec Giscard à pousser sur la 75. Il est arrivé à financer une partie, des petites parties de la 88 et de la RN106. Mais au niveau de la direction des routes de l'équipement, du ministère de l'équipement, ça a toujours été un blocage parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas une fréquentation suffisante.
Eh bien, il faudra les convaincre, être un bon avocat pour la circonstance en tant que le nouveau député.
Pierre Morel, vous avez dit que vous allez voter, vous comptez voter des lois proposées par la majorité. Un des premiers dossiers sera la loi travail. Qu'en est-il de cette loi travail ? Alors,
comment voulez-vous qu'on réponde à une question ?
On commence à avoir des pistes hein,
mais
sur
on est
cette
dans
loi
le
travail.
On est dans le flou total. Il va y avoir, paraît-il, 46 réunions de concertation avec les syndicats. Bon, le problème, c'est que ces réunions, les syndicats vont dire un certain nombre de choses, et puis des fois, sur des problèmes de principe, ils diront non. Le plafonnement des indemnités prud'homales. Je me demande si c'est constitutionnel et si ça ne sera pas retoqué. Attention. L'assouplissement d'un certain nombre de règles, le contrat à durée déterminée, les raisons du licenciement, tout ça, il va y avoir des pierres d'achoppement profondes avec les syndicats. Donc il faut savoir ce que va être le texte et ce que les syndicats, FO, CGT, CFDT, le MEDEF vont vouloir dire. C'est aujourd'hui, on est dans le flou. On dit qu'on veut réformer la loi travail. C'est un concept. C'est pas une réalité.
Alors par contre, il y a un décret qui est sorti le 8 juin concernant les rythmes scolaires où les sénateurs se sont prononcés contre la réforme, contre la révision de ces rythmes
scolaires.
De la réforme. Qu'en pensez-vous ?
En tant que maire, en plus.
En tant que
maire,
moi, j'applique immédiatement le retour au système antérieur. Ça nous a pollué la vie des familles, la vie des enfants. Ça a pollué la vie des communes qui ont été astreintes à des financements considérables. Aujourd'hui, je vous le dis très clairement, je ne peux pas continuer à Fournel. Je n'ai plus les moyens. J'avais une association support qui le faisait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi d'avenir. Donc je ne peux plus avoir d'emploi aidé. Donc je ne peux plus assurer les TAP.
D'accord. Vous êtes pour le retour de la semaine à 4 jours aussi, M. Palombier.
En ce qui concerne cette loi, j'en ai largement discuté avec les maires.
C'est pas une loi,
bien
hein.
sûr.
Décret.
J'ai discuté de ce décret, pardonnez-moi. Oui, j'ai fait une petite faute. C'est l'inexpérience, peut-être.
Tout excusé, ça me faisait plaisir de le relever.
Très bien, monsieur le député. Donc, j'ai discuté avec les maires, surtout de petites communes rurales. Il est bien évident que certaines ne peuvent pas, de la façon dont ça s'est organisé, si ce n'est de faire des garderies, mais ce n'était pas le but de la loi. Je pense que le ministre qui a porté cette loi a voulu à tout prix la mettre en place. Et Emmanuel Macron, vous le savez, il est toujours très pragmatique et il a cette sagesse malgré qu'il a moins de 40 ans. Quant à l'analyse des dossiers, par exemple, l'impôt à la source, il va certainement le décaler pour le mettre en place de meilleure manière et avec un peu plus de temps. Pour ce qui est des rythmes scolaires, il va d'abord donner le choix. Hein, ceux qui voudront le... J'ai rencontré des communes qui veulent le maintenir parce qu'il y a des points peut-être positifs sur le plan pédagogique, sur le plan accompagnement des enfants. Mais je pense que ce sera revu. Vous savez, en 3 semaines de présidence de la République et un gouvernement en constitution pendant en plus une élection législative... Il faut quand même être confiant en l'avenir, faire confiance. Vous savez, monsieur le député, je pense que ça vous arrive de faire confiance à des proches, à des collaboratrices, des collaborateurs. Eh bien, moi, je voudrais prononcer dans ce débat ce mot de confiance. Partons confiants pour réussir, pour le bien-être de toute la France et pour l'intérêt général.
Alors rapidement, on va terminer cette émission. J'ai eu un coup de fil ce matin de l'association Les Vents de Lozère, ayant justement eu vent de ce débat, qui aimerait connaître, sachant que vous alliez intervenir dans ce débat, votre position tous les deux sur l'implantation des parcs d'éoliennes en Lozère. Francis Palombi, savoir un peu qu'est-ce que vous pensez de ces parcs qui veulent être implantés en Lozère sur l'éolien.
Alors, j'en ai longuement discuté avec ma suppléante, entre autres, parce qu'elle connaît bien le dossier. Moi, je m'y suis penché parce que je suis pour une certaine forme de vie meilleure, de rendre plus propre la planète, comme tout citoyen, parce que c'est le devenir de chacune et de chacun. Mais par rapport aux éoliennes, je suis quand même dans un discours de maîtrise et de prudence. Pas n'importe où, de n'importe quelle manière, parce que d'abord, nous avons un site magnifique. Là, je crois, sur ce point, on est d'accord tous les deux. Nous aimons la Lozère.
Monsieur Palombier.
Et par rapport à l'aspect nuisance parfois, perturbation des animaux, perturber le site sur le plan touristique. D'ailleurs, j'espère qu'on parlera du tourisme, mais peut-être pas. Voilà, j'aurais voulu dire deux mots sur le tourisme, où il y a beaucoup à faire pour rendre la Lozère plus accessible et certes, mais plus attractive encore pour les touristes. Oui, donc je suis quand même pour une maîtrise et pas un envahissement de notre beau département par des éoliennes partout. Faisons-les dans la mer aussi, poussons le principe. Il a ses raisons d'être parmi les nouvelles énergies non fossiles, parce qu'il faut quand même s'écarter du fossile au fur et à mesure que le temps avance, parce que sinon on sera pris dans une situation très difficile.
Pierre Morel,
j'ai une position assez tranchée. Je suis très hostile à ce dispositif, dans la mesure où ça abîme énormément notre territoire. Et il en faudrait des milliers et des milliers pour qu'il y ait une réponse énergétique intéressante. Et puis ce qui me gêne, je le dis très, très directement, des maires se font malheureusement avoir un peu par les promoteurs. Il y a beaucoup d'argent derrière cette énergie industrielle. Et il y a aussi des condamnations pénales. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un audit de tout ça et voir ce qui se passe, parce que ça pose d'énormes problèmes dans des territoires ruraux. Absolument. Où des petites communes se disent « il y a une manne à récupérer », mais c'est pas ça l'objectif de l'éolien. Donc moi, j'ai maintenant une position vraiment très tranchée.
D'accord, merci Pierre Morel-Alussier. On va terminer cette émission avec 10 questions rapides, un peu pour déterminer votre personnalité, vous connaître un peu plus.
Là, il se prépare.
Préparez-vous, ça va être très simple. Vous dites ce que vous avez à dire sur ce sujet. On va commencer par vous, oui. Monsieur Morel. Savoir un peu, on va parler littérature, connaître un peu. Quel est votre livre de chevet ?
Moi, je suis un poète. Je fais beaucoup de poèmes, j'écris beaucoup. J'aime beaucoup Victor Hugo. Voilà, je suis un peu fleur bleue en plus. J'aime bien la poésie qui finit bien.
Plutôt Victor Hugo pour vous.
Pas Giono sur la table de chevet.
Non.
L'homme qui plantait des arbres,
Misérables.
Pierre Morel, non ?
Oui, moi j'aime beaucoup les arbres, mais Les Misérables, ça va, c'est toujours été quelque chose de fabuleux.
Francis Palombi.
En ce qui me concerne, quelques romans un petit peu, oui, comme Le Rouge et le Noir, des choses un peu romantiques, mais surtout quand même des magazines économiques, particulièrement pour m'informer toujours plus. C'est un peu mon dada.
Votre film culte, Pierre Morel ?
Bon, là, vous me prenez au dépourvu. Les Petits Mouchoirs, je crois. Il y a un joli...
Guillaume Canet.
Oui, je crois, oui. C'était... Voilà, j'adore les histoires amoureuses qui finissent bien. Et je le dis à vos auditeurs, je n'hésite pas à avoir une petite larme lorsque l'histoire finit pas bien.
Francis Palombi.
Alors, je vous situe le film et vous allez m'aider. C'est le film dans une zone rurale d'ailleurs, où il y avait un couple de sourds et muets avec leur fille.
La famille Bélier.
Voilà, la famille Bélier, ça m'a profondément touché. Et comme monsieur le député, j'ai aussi eu un peu d'émotion.
Alors, on va changer de sens, monsieur Palombi. La musique que vous écoutez en ce moment, que vous aimez écouter en voiture.
En sillonnant la Lozère, là, dans votre petit bus.
Bon, écoutez, j'écoute les informations, la FM. Et de temps en temps, quand même, surtout que Nostalgie a évolué, compte tenu de ma génération, monsieur le député, je me plais à écouter de la musique folk et puis de la musique Nostalgie.
Moi, ce sont les Enfoirés. J'adore toutes les compilations des Enfoirés. J'aime bien Zaz, c'est ça, la jeune femme, là. J'aime beaucoup. Et j'écoute la musique et très fort dans la voiture. Je la mets très, très fort.
Monsieur Palombi, votre sport de prédilection ?
Ah, mon sport de prédilection. J'ai commencé par le vélo, puisque j'ai un oncle professionnel, Lucien Tesser, qui a fait partie de la famille. Après, je me suis exercé à faire de la course à pied. Bon, maintenant, c'est un peu plus problématique, parce qu'il faut que je perde quelques kilos, mais j'ai fait quand même 12 Marvejolmande.
Ah oui ?
Donc, pour un néophyte, j'ai fait 12 Marvejolmande. Et j'ai touché, bien sûr, avec guide, pas pas en escalade, mais en parcours de très haute montagne. J'ai fait le Cervin, j'ai fait le Mont Blanc plusieurs fois. Voilà, j'aime la haute montagne, le challenge.
Moi, d'abord, il y a un loisir, c'est la culture des arbres d'ornement. Chez moi, j'adore ça, et ça prend du temps. Et puis, je suis adepte maintenant du VTT, mais électrique. Et alors, on va peut-être rigoler, mais on part avec le turbo, ou plutôt, on revient avec le turbo et on part avec la petite vitesse. Donc, en fait, le turbo a l'avantage, c'est qu'on rentre à la maison.
Allez, question plus sérieuse, Caro.
Êtes-vous pour le mariage pour tous, Pierre Morel ?
Sans problème.
Monsieur Palombi ?
Oui, je n'ai rien contre. Ça représente 3% de la population, en plus. Mais je n'ai rien contre, au contraire.
Allez, sujet important aussi pour la députation qui va arriver. Êtes-vous pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, monsieur Palombi ?
Écoutez, là, je ne suis pas tout à fait dans la ligne du président de la République, qui a plutôt formulé un accord de principe. S'il y avait une autre solution, je connais bien Nantes, s'il y avait une solution peut-être de contournement ou d'amélioration ou de modernisation de l'aéroport actuel, ça ne me déplairait pas non plus, mais je pense que ça reviendra très vite dans l'actualité politique.
Totalement pour. Et je regrette que près de 70 décisions de justice ne soient pas respectées et que le président de la République, qui dit être pragmatique, ait encore désigné 3 médiateurs. Ça coûte un argent fou. On piétine. Une bonne fois pour toutes. Allons-y. Parce que si ça se fait pas, je vous préviens, plus aucun dossier linéaire d'infrastructure ne se fera. Il suffira qu'une association dépose des recours devant des tribunaux administratifs pour que tout s'arrête.
Oui. Par contre, j'ai discuté avec beaucoup de pilotes. Ils sont pas tous aussi fermes sur la vie. Ils disent on peut faire très bien avec l'actuel, avec des grosses modifications.
Avant-dernière question, Pierre Morel. La fin de vie, faut-il aller plus loin que la loi Leonetti ?
J'ai eu un vrai problème. J'affectionne particulièrement M. Leonetti. J'ai assisté à tous les débats et je vous le dis avec gravité, j'ai entendu des médecins, j'ai entendu des religieux, j'ai entendu y compris des francs-maçons, plusieurs thèses. Je me suis abstenu au vote. Je n'ai pas su me déterminer. Les médecins disent on ne peut pas être des spécialistes pour donner la mort. Et d'autres disent on ne peut pas laisser mourir sans un accompagnement et peut-être une injection létale. Je me suis abstenu. Ça fait deux fois que ça revient en débat. C'est très délicat. C'est d'ailleurs un sujet qui met le député de la nation devant sa propre conception de la vie. C'est compliqué.
Francis Palombi.
Ben écoutez, moi, je suis également en grande réflexion. J'ai des remous personnels très forts sur ce propos. Je suis chrétien. Bon, ben ça, j'ai une philosophie chrétienne. Et le docteur, le médecin, il est là pour préserver la vie. Il n'est pas là pour l'arrêter. Mais par contre, c'est vrai, comme vient de le dire Pierre Morel, la grande souffrance de quelqu'un, ça ne laisse pas insensible. Et puis, j'ai observé en Suisse, par exemple, où je ne dis pas le mot, je ne voudrais pas le prononcer, mais ça devient presque un marché. Et ça me gêne un peu. La vie, je crois en la vie, j'aime la vie. C'est un peu mon slogan, j'aime la vie. Donc, je suis
aussi
quand même. Et je m'en étais rendu.
Le slogan de Pierre Morel Essier, qui est moi aussi.
Voilà.
C'est bien. Allez, dernière question avant de vous laisser conclure, monsieur Palombi. Faut-il passer à la proportionnelle et si oui, intégrale ou pas ?
Non. Passer à la proportionnelle intégrale pour revenir à la 4e République, parce que là, mes cheveux gris me permettent d'en parler. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Mais c'est vrai que accentuer un peu la représentativité, mais là je rejoins les propos et les intentions du président de la République. Une petite dose de proportionnel ne ferait pas de mal pour la démocratie, la représentativité des idées de chacune et de chacun, mais la proportionnelle intégrale, c'est pas concevable pour moi.
Très bien, monsieur Morel.
Pierre Morel.
Je pense incontestablement qu'il faut modifier le mode de scrutin et permettre à des courants politiques d'être représentés et représenter toute la société. Ensuite, il faut voir à quel degré on intègre la proportionnelle.
Très bien. Caroline, dis-moi.
Alors, on arrive au terme de cette émission. On a un petit peu dépassé. Merci, messieurs. Vous avez été bavards. Le temps de parole était à peu près respecté à 30 secondes. Hein, donc, on va pas... Voilà. Pour terminer, on va rappeler qu'il y a deux grands rassemblements prévus ce jeudi à Mende. Vous avez choisi le même jour. Donc, pour Francis Palombi, à 19h à l'espace événement, Georges Frêche. Et pour Pierre Morel, à 20h30 à la salle Urbain 5 de Mende. Vous pouvez aller aux deux pour comparer, pour voir... Et vous
on
faire une opinion.
Consulter, mais c'est une bonne chose que les heures soient décalées.
Tout à fait.
Parce que
ça nous facilitera le travail.
Les électeurs, c'est important de repenser à tout cela.
Bien sûr.
Allez, on vous laisse 30 secondes pour conclure cette émission, dire ce que vous avez envie de dire aux Lozériens pour qu'ils votent pour vous, Monsieur Palombi.
Eh bien, écoutez, moi, je leur dis de oser le changement en Lozère, ne pas se bloquer sur des critères subjectifs. On le connaît pas assez. Je l'ai pas vu dans mon village. Ce qui est important, c'est que je suis le député, je serai le député de la majorité, que ça facilitera à bien des niveaux l'évolution de la Lozère, et je les appelle sans réserve, en toute confiance, à œuvrer, à décider le changement, l'évolution, de nouvelles têtes, le renouveau, en votant pour Francis Palombi, La République en marche.
Merci Francis Palombi. Pierre Morel à Lucier.
Je dis aux Lozériennes et Lozériens, faites-moi confiance une nouvelle fois. Je ne vous ai jamais trompé sur mes conceptions, sur mes engagements. Je suis aujourd'hui reconnu comme un député très actif, très bien classé au niveau national. Je défends la ruralité bec et ongle. J'ai également à mes côtés Samine Dahl, qui est aujourd'hui fait partie d'un duo, d'un binôme, qui est excessivement compétente. Donc quand vous votez pour moi, vous votez pour elle également. Faites-moi confiance, ne choisissez pas un député étiquette, ça n'a jamais vraiment fonctionné.
Merci à vous deux d'être venus dans cette émission. Merci Caroline Gaillard de Midi
Libre
Lozère. On retrouvera
un compte-rendu demain dans le journal, bien évidemment, et l'émission à retrouver en podcast sur le site 48 FM.
Voilà, et également, elle sera rediffusée demain soir à 19h. On va la rediffuser, cette émission. Merci, messieurs. Bon,
merci à vous,
entre deuxième tour reçu. Et dimanche, 48 FM vous proposera une émission spéciale élections législatives.
Émission spéciale pour le second tour des élections législatives en partenariat avec Midi Libre Lozère.